Hébreux chapitre 1, versets 1 à 6. Au nom de Jésus. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est lui que Dieu a désigné pour entrer en possession de tout. Il reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les hommes de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un nom plus important que le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « C'est toi qui es mon Fils. À partir d'aujourd'hui, je suis ton Père. » Et il n'a jamais dit à propos d'un ange, « Je serai un père pour lui, il sera un fils pour moi. » Mais au moment où Dieu allait envoyer son fils, premier-né dans le monde, il a dit, « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. » Amen. En suivant la lecture, on dirait que nous entrons dans une toute autre dimension dans un monde des dieux. Le Père, le Fils, et il parle aussi des anges. Cela m'a fait penser à l'histoire de Zeus et de son fils, Hercule. Zeus qui a eu ce fils avec une mortelle. Et par conséquent, Hercule n'est qu'un demi-dieu, malgré la grande force qu'il avait. Et si on regarde un peu cette mythologie, il y a quelques points communs intéressants avec l'histoire de la nativité. Junon ou Héra, qui se sentait trahi par son mari Jupiter, se vengea sur Hercule, en lui envoyant deux grands serpents venimeux pour l'étrangler. Mais le petit Hercule a pris les deux serpents, puis joua avec et les jetait aux pieds de sa mère. La question qui se pose, est-ce que cette histoire ne vous fait pas rappeler certaines choses en lien avec la nativité et le personnage de Jésus? Marie, en parallèle avec Héra, Jésus, en parallèle avec Hercule, et les serpents, avec la parole qui est dite dans Genèse 3,15, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne, en parlant avec le serpent, et la sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Ces points de similitude font penser à beaucoup de personnes à croire que l'histoire de la nativité du Christ n'est qu'une réplique de plusieurs légendes sur la naissance des demi-dieux. Et beaucoup ne croient pas à la nativité. Ils disent que ça a été calqué sur des histoires légendes. Dans notre raisonnement humain, la version de la légende est plus logique que la nativité. Il est difficile d'accepter que Jésus soit totalement Dieu tout en étant aussi un être humain, c'est-à-dire un Dieu à 100% et un être humain à 100%. Ça, c'est difficile d'accepter. Contrairement à l'histoire d'Hercule, il est plus facile d'accepter s'il est demi-Dieu. Là, c'est plus tolérable. Un demi-Dieu, c'est quelqu'un qui est Dieu à 50% et humain à 50%. Tandis que dans notre texte, ici, l'auteur est clair dans ses propos le verset 3, il dit très bien et très clair, il reflète la splendeur de la gloire divine, il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Donc Jésus n'est pas un humain à 50% et un Dieu à 50%, il est Dieu à 100%, mais aussi il est humain à 100%. Et selon l'Épître aux Hébreux, Jésus est le rayonnement de la gloire du Père et l'expression de sa réalité. Donc on voit très bien qu'il met une distinction claire, c'est que le Fils n'est pas le Père. Ce sont deux personnes différentes. Mais ce Fils n'est pas la moitié ou juste une représentation du Père, mais il est l'expression de la réalité de Dieu. Il est Dieu et non à moitié Dieu. Et c'est là que se situe le grand mystère de la nativité. Ce corps a été déifié. Le corps de Jésus a été déifié. Ce n'est pas juste une enveloppe. Parce que dans d'autres religions qui disent « Oui, mais Dieu a choisi un humain, il a mis son esprit dedans » juste pour un moment, pour accomplir sa mission, et après, l'Esprit de Dieu s'est volatilisé. Ça, c'est plutôt dans les croyances musulmanes. Mais ce n'est pas juste une enveloppe. Le corps a été déifié. La preuve, ce corps qui a su entrer dans une pièce fermée lors de la résurrection. La transfiguration sur la montagne, rappelez-vous. Les disciples ne l'ont plus reconnu. Jésus qui marchait sur l'eau, puisque c'est un corps déifié, un corps normal ne pouvait pas marcher sur l'eau à cause de la loi de la pesanteur. Ce corps est déifié. Ce corps est Dieu. Et toutes ces histoires marquent que son corps a été déifié. Et vice-versa, et là c'est très intéressant de l'autre côté, sa divinité a été humanisé. Et c'est là la kénose, Dieu qui s'est dépouillé. Un Dieu, normalement, est inaccessible pour l'homme. Pourtant, grâce à ce corps déifié, tout le monde pouvait voir Dieu. Il donne un visage visible du Père. Un Dieu qui ne devrait pas avoir des émotions. Un Dieu, normalement, n'a pas d'émotion. Mais avec Jésus, cela a complètement changé. Rappelez-vous, Jésus a pleuré deux fois dans la Bible, face à la destruction de Jérusalem qu'il avait vue en vision et face au tombeau de Lazare. Un Dieu qui a des sentiments. Dans l'évangile de Marc, il est dit à chaque fois, quand Jésus allait faire un miracle, Jésus avait eu pitié de la personne. Et c'est ça qui l'a poussé à faire les miracles. Je dis cela pourquoi? Parce que certaines tendances d'église détestent quand ils entendent l'expression « l'enfant Jésus ». Non, Jésus n'est plus un enfant. Ils pensent que c'est réducteur de dire « l'enfant Jésus ». Mais Jésus n'est plus un bébé, disent-ils. Il est à la droite du Père, comme le texte nous le dit ici, bien sûr. Mais moi, personnellement, cela n'est pas du tout réducteur, cela est libérateur pour l'espèce humaine d'entendre cette histoire pendant la période de Noël, que Dieu remet à sa place la création qui a été corrompue par le péché. Contrairement à la philosophie grecque qui véhicule que le corps est mauvais, et parfois même certains chrétiens le pensent aussi, ce n'est pas une idée de la Bible. C'est une philosophie grecque que nous avons héritée. Certains pensent que le corps est mauvais. Alors, il faut libérer l'esprit et l'âme du corps qui leur sert de prison. Or, notre texte parle de rayonnement de la gloire. Vous voyez, c'est très différent. Ce corps de Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. C'est tout à fait différent. D'ailleurs, si vous regardez les versets 5 et 6, il est dit, je vais relire au nom de Jésus, « Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, c'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Et il n'a jamais dit à propos d'un ange, je serai un père pour lui et sera un fils pour moi. Mais au moment où Dieu allait envoyer son premier, né dans le monde, il a dit, tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Les anges que nous avons tellement idéalisés. Oh, je ne suis pas un ange. N'ont pas la même considération que le Fils de Dieu et nous aussi. Parce qu'il est dit, il est le premier-né. Ça veut dire que moi aussi, je me situe au même niveau que le Fils de Dieu. Et donc, les anges sont nos serviteurs. C'est pour cette raison que nous ne prions pas les anges. Parce que les anges ont une place inférieure à l'homme. N'idéalisez pas les anges. Et grâce à ce processus, je dis bien processus, d'incarnation du Fils de Dieu, qu'il nous a ouvert l'accès à cette divinité. Nous pouvons entrer dans le cercle fermé de Dieu. On peut entrer dans le cercle fermé de Dieu. Dans Jean 14, 3, il dit, « Et après être allé, vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Même chose à ce qui est dit dans Hébreux 10, 20, « Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. » Et enfin, le verset que nous connaissons tous, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, grâce à Jésus qui est né dans un corps, nous pouvons entrer dans le cercle fermé de la Trinité. Et c'est ça la bonne nouvelle. Je fais partie de la famille de Dieu. Je fais partie de la famille de ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est avec nous. Là où le Fils de Dieu est, alors ce lieu devient un lieu céleste, car tous les anges viennent se prosterner devant lui, les anges qui chantaient la gloire de ce Fils de Dieu. Le royaume des cieux est lié à Jésus. Jésus avait dit à Nathanaël, un de ses apôtres, « Tu verras le ciel s'ouvrir et les anges qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. » Oui, là où le Christ est, alors ce lieu devient un paradis. Grâce à ce Jésus qui est né à Bethléem, le ciel est accessible à nous tous les jours, 24 heures sur 24. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Il est toujours prêt à nous écouter. Pourquoi je dis cela? Car c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici ou bien il est là. Car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et là, Jésus faisait allusion à lui-même. Le royaume de Dieu n'est pas un local géographique. Quand j'étais enfant, je me suis toujours posé cette question. Mais où pourrait se situer le paradis? Quand je regarde la planète, est-ce que c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Je ne savais pas que la vie éternelle ne dépendait pas d'un lieu. Elle dépend plutôt d'une personne, Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc toi, si tu as le Fils de Dieu en toi, tu deviens un paradis, puisque Dieu est en toi. Et c'est ce qui doit faire la différence de notre foi par rapport aux autres religions. Les autres religions, elles focalisent leur message d'espoir sur un lieu, le paradis. On fait espérer aux gens, il faut fixer le regard vers le paradis. Non, nous les chrétiens, nous ne sommes pas des idolâtres. On ne prie pas Jésus parce que nous voulons aller au paradis. Ça, c'est une hérésie. Nous ne venons pas au culte pour aller au paradis. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu pour aller au ciel. Alors, à ce moment-là, le ciel devient notre principal objectif. Mais notre objectif, c'est le Christ. Là où le Christ est, le paradis est. Il parle de lui, mais l'accent est plutôt sur le lieu où est le Fils de Dieu serait aussi notre place. Quand il dit, et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. C'est ça le plus important, mes amis. Être tout près du Seigneur. Quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, quel que soit le contexte, quand tu es sûr que le Seigneur est avec toi, tout change dans ta façon de voir la vie, dans ta façon de voir les choses. Et en jetant un coup d'œil sur les tables où le Christ est né, une image m'est venue comme ça dans la tête. Voilà, le ciel est délocalisé. Le ciel est descendu à Bethléem. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu est là. Et quand le Fils de Dieu est là, même les anges sont descendus pour l'occasion. Oui, le Christ a quitté le ciel pour venir à Bethléem. Bethléem, qui n'était rien du tout, et maintenant qui est connu de tout le monde, grâce à ce Jésus. Toi aussi, il veut vivre avec toi. Il veut vivre en toi. Et il veut te transformer. Amen.